Audiolib présente Les témoins de la mariée de Didier Van Kovelaert, lu par l'auteur Sophie Loubière, Stéphane Ronchevski et Pierre Tissot. Partie 1. Hermann Banyuls. Je suis tombé amoureux et je ne me relève pas. C'est en ces termes que Marc nous a parlé d'elle, la première fois, dans sa maison de la forêt de Chevreuse, pendant le réveillon du 21 décembre. Notre pré-Noël entre potes, avant celui des familles, des maîtresses ou des solitudes qui nous séparaient toujours les soirs de fêtes officielles. Il a bien vu qu'on ne le croyait pas. Tombé amoureux, lui, le don Juan machinal dont le press-book était un tableau de chasse. Lui qui était l'un des photographes les plus chers du monde et qui ne couchait jamais plus d'une semaine avec ses modèles par conscience professionnelle, instinct de survie et respect pour ses prochaines conquêtes. Au bout de 8 jours, il me les confiait pour que je les dissuade de s'incruster. J'étais chargé, preuve à l'appui, de le faire passer pour un pervers en série ne songeant qu'à tuer sa mère en détruisant les autres femmes. Comme les grands de ce monde ont un goûteur, Marc m'employait à l'année pour pouvoir consommer en toute sérénité. J'étais son dégoûteur. De même qu'il me laissait utiliser pour mon plaisir ces voitures de collection dont j'assurais l'entretien, j'avais le droit, si la fille m'attirait et qu'elle était d'accord, de toucher en nature ma commission d'intermédiaire. C'était rarement le cas. Je suis sexy comme un croque-mort, j'ai un nom ridicule, une tête qui fait peur et, de toute façon, ses ex étaient trop accros à son charme pour avoir envie de se venger dans les bras de sa doublure. C'est à moi qu'elles en voulaient. Lui, elle le comprenait. Tellement j'étais convaincant lorsque je lui inventais la pire des mères en m'inspirant de la mienne. Elle le plaignait, avec la sensation flatteuse de sacrifier provisoirement leur passion dans leur propre intérêt. Et elle ne doutait pas qu'une fois sa maman au cimetière, il reviendrait vers elle qui avait si bien su le comprendre. Son prestige d'amant et mes talents de comédien transformaient les arrivistes à court terme en rongeuses de freins. Même tombée dans l'oubli, elle ne pouvait pas se passer de Marc et le bombarder de mails que je plaçais dans la corbeille sans les ouvrir. Les marcomanes, comme je les appelais. Il ne leur redonnait jamais signe de vie, mais aucune ne se plaignait de lui dans le métier. Elle l'attendait, prenant son mal en patience. Lucas, Jean-Claude et Marlène m'ont interrogé du coin de l'œil. Non, je tombais des nues, moi aussi, je n'étais pas au courant de cette relation. Marc ne me cachait rien. Je tenais ses comptes et son agenda, je gérais sa vie sexuelle et tout était normal ces derniers temps. Un peu plus calme que d'habitude, c'est vrai. Je me disais que c'était l'âge, la crise de la quarantaine quand on commence à brider son moteur par économie d'énergie. Se pouvait-il qu'une femme ait réussi à rendre Marc aussi dépendant que l'étaient ses victimes ? Qu'avait-elle de plus, celle-ci ? Ou qu'avait-elle de moins ? Au bout de la table, Jaja a couché son verre dans son assiette. L'auxiliaire de vie est venu l'aider à se lever. On l'a suivi des yeux tandis qu'elle marchait vers sa chambre, légère et souriante. C'était le premier Noël où la mère de Marc n'avait reconnu personne. Il nous a montré la photo de l'élu. Nous avons échangé un regard où la perplexité le disputait à la consternation. Le portrait en noir et blanc était superbement contrasté, comme tout ce que faisait Marc, mais la fille était l'incarnation parfaite de la banalité. Silhouette plate en blouse grise, sourire de commande, cheveux raides, regard droit, avec une expression de désarroi